Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Londres. Ça y est, le Brexit est lancé, mais tout sera-t-il facile pour autant? On va le voir. Là est avec l'extrême droite de Geert Wilders qui rate son pari. Ankara qui insulte un certain nombre de pays européens sur fond de référendum. Et puis Damas, capitale d'une Syrie devenue une chambre de torture, dixit l'ONU. 6 ans de guerre, c'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec François Hesbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour François.
Bonjour.
On le rappelle, un livre qui était sorti il y a quelques mois, « Comment perdre la guerre contre le terrorisme ». Toujours d'actualité, malheureusement, en 2017 comme en 2016. Vincent Hugeux est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice.
Grand reporter à l'Express, on le rappelle, hein, Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames en livre de poche. Alors, au travers de ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est un peu tout le paradoxe de l'Europe. Il y a ce sentiment positif sur l'économie européenne dont on vous parle sur BFM Business. La croissance est repartie et avec des marchés qui accompagne cette tendance. Et puis en même temps, sur la scène politique, notamment, c'est une Europe égratignée, fragilisée, que l'on observe. Et on reviendra sur chacun des faits d'ici quelques minutes. Hein, le protectionnisme qui menace. Angela Merkel, elle était avec Donald Trump ce vendredi. Les assauts de la Turquie contre l'Allemagne, le Danemark et surtout les Pays-Bas, tous nazis, tous fascistes. Hein. Les Pays-Bas, justement, qui échappent à la victoire de l'extrême droite aux législatives. Le vote populiste hein, qui pousse un petit peu partout. Et puis, cet événement marquant quand même en début de semaine, la reine d'Angleterre qui accorde son royal assent, son consentement royal à Theresa May, donc pour qu'elle active l'article 50 du traité de Lisbonne en vue de la sortie de l'Union européenne, la première ministre britannique.
Ce sera un tout nouveau moment pour notre pays où nous allons commencer à définir de nouvelles relations avec l'Europe et un nouveau rôle pour nous dans le monde. Nous aurons un gouvernement fort et autonome pour notre pays.
Voilà, Theresa May, donc, qui avait obtenu en début de semaine le feu vert des parlementaires britanniques. François Hesbourg, est-ce que le plus dur, comme je le disais, ne reste-t-il pas à faire? 9 mois après le référendum du 23 juin dernier, est-ce que tout est organisé? Est-ce que tout est prêt au Royaume-Uni?
Rien n'est prêt au Royaume-Uni, et y compris le Royaume-Uni lui-même, et puisque la première conséquence politique du Royal Assent, ça a été la demande de l'Écosse de procéder à un deuxième référendum sur l'indépendance, et ceci dès avant la fin de la période de négociation des 2 ans, demande qui a été refusée par Madame May, mais évidemment ce refus lui-même va alimenter la poussée indépendantiste en Écosse. C'est un peu embêtant. La deuxième chose, c'est que il faut des centaines et des centaines de fonctionnaires et de consultants pour conduire une négociation incroyablement complexe, le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est une très grosse affaire. L'Union européenne a là ses institutions pour négocier. Le Royaume-Uni est obligé de tout bâtir,
tout inventer,
quasiment à partir de zéro. Ça va être très, très, très pénible avec cette incertitude existentielle sur l'Écosse et j'ajouterai aussi sur l'Irlande, car le parti
le Sinn Féin
en Irlande du Nord, et qui a été le grand vainqueur des élections il y a quelques jours en Irlande du Nord, réclame aussi
le rattachement à l'Irlande, donc en maintien dans l'Union européenne.
Le refus du Brexit.
Tout juste. Alors oui, discussions qui vont être extrêmement lourdes, hein, nous disait François Hesbourg. Alors on va discuter de la facture de la sortie de l'Union européenne. Bruxelles dit, vous voulez sortir, ça va vous coûter 60 milliards, carrément. Mmh. Voilà. Très bien. On va discuter aussi des 3 millions d'Européens installés outre-Manche, des 2 millions de Britanniques qui sont installés sur le continent, sur leur statut en matière de travail, d'étudier, d'accès aux soins. Bon, Vincent Hugeux, je ne suis pas sûr que Londres soit en position de force dans l'histoire.
L'ensemble du processus que vous venez de dépeindre durera au mieux 2 ans. C'est-à-dire devrait être bouclé un peu avant l'échéance électorale européenne de juin 2019.
Le Parlement européen, exactement.
L'ennui, c'est que Theresa May récuse le terme même de divorce, parce qu'il renvoie parfois à des démontages douloureux, à des pensions alimentaires, à des conflits pour la garde des enfants. Mais c'est bien de ça dont il s'agit. C'est bien un divorce, avec toutes les conséquences que ça suppose. Et voilà que même elle voit, par exemple, Nicola Sturgeon, Premier ministre écossais, retourner l'argument qui était le sien. Theresa May disait « Nous voulons reprendre le contrôle de notre destin ». Eh bien, très bien, dit Madame Sturgeon, nous allons faire la même chose. Nous allons donc rejouer le référendum, celui de 2014 n'ayant pas abouti, en tout cas pas conformément aux vœux des indépendantistes écossais. Alors c'est très compliqué pour Madame May de récuser ça. Alors certes, Madame Sturgeon a besoin pour cela d'un accord de Londres et du Parlement de Westminster. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et aussi, Bruxelles a rappelé à la même Madame Sturgeon que, en toute hypothèse, c'était retour à la case départ. Il n'y a pas de réintégration automatique, même en cas d'indépendance aboutie. Très bien. Mais c'est compliqué pour Madame May, effectivement, de récuser ce qu'elle a revendiqué pour elle-même et donc d'attiser, comme le disait François Hesbourg, justement, le prurite autonomiste de pas mal d'électeurs écossais.
Ouais, François Hesbourg.
Oui, deux ans, c'est vraiment le meilleur des cas. Et deux ans pour le divorce.
Est-ce que si ça n'aboutit pas au bout de deux ans, juste une petite explication, on continue
si
ou alors...
Si ça n'aboutit pas au bout de deux ans, et le Royaume-Uni se retrouve à la rue. Mmh. Et il n'y a pas d'accord de commerce, et il n'y a pas d'organisation agréée pour les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ça, c'est probablement le scénario du pire. Et ce qui est plus vraisemblable, c'est qu'il faudra entre 5 et 8 ans, une fois le divorce des deux ans abouti, de façon consensuelle, il faudra ensuite plusieurs années de négociations pour tenter de bâtir un accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les objectifs des négociations des Britanniques et les objectifs des négociations des Européens sont totalement différents. Pour le Royaume-Uni, il s'agit d'obtenir les meilleures conditions possibles du Brexit. Ça paraît assez logique. Mais pour les Européens, le souci numéro un n'est pas l'aménagement des relations avec le Royaume-Uni. Le souci numéro un, c'est la préservation de l'unité de l'Union. Ce n'est pas la même chose. Et c'est comme cela que nous nous retrouvons avec 27 pays qui sont divisés sur à peu près tout. Mais pas sur ça. ils ne veulent pas, jusqu'à présent, aucun autre État membre de l'Union européenne n'a envie de casser l'Union. Donc la négociation sera conduite à l'aune du maintien de l'Union.
Vincent, je veux encore un mot, et puis on part aux Pays-Bas dans la seconde.
Le paradoxe, c'est que la semaine du Royal Assent, du consentement de Sa Gracieuse Majesté, Theresa May aborde le Congrès ce week-end même des conservateurs à Cardiff dans une position relativement affaiblie. Parce que, précisément, elle qui dit depuis le début « mieux vaut pas d'accord du tout qu'un mauvais accord »,« une rupture franche vaut mieux qu'un démontage complexe », etc., elle se trouve face aussi à une base qui est un peu troublée, qui en plus, maintenant, voit émerger une petite caste de frondeurs, vous voyez, pas qu'au PS que ça arrive, parce que, sur les options budgétaires qui sont les siennes, la voilà contestée.
Alors, Brexit au Royaume-Uni, on attend le vote français, évidemment, dans un mois. Les Allemands, ce sera donc, évidemment, au mois de septembre. Et donc, mercredi dernier, les Néerlandais qui votaient aux législatives, premier scrutin d'importance en Europe sur fond de montée générale des partis populistes, extrémistes, il y a une très forte participation, 77%. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait trébucher le parti des libertés de Geert Wilders, vous savez, le leader anti-islam, anti-système, anti-Europe, en progression certes, mais deuxième, avec 13% des voix, derrière le Premier ministre sortant, le libéral Mark Rutte.
Après le Brexit, après les élections américaines, les électeurs ont dit non à un pays différent. Ils ont dit stop à ce mauvais genre de populisme.
Alors, reste à savoir maintenant avec qui il va gouverner, Mark Rutte. Satisfaction des capitales européennes, satisfaction de la Commission. Quand même, Vincent Hugeux, ceux qui craignaient le coup d'envoi de la saison du printemps des populistes, est-ce qu'il doit vraiment se réjouir quand même après le résultat néerlandais?
Excellente question. À mon sens, non. Ouais. Ce soulagement est à la hauteur de la terreur, de la crainte éprouvée. Mais c'est un soulagement qui, à mon sens, renvoie à une lecture un peu illusoire de la réalité. Alors certes, il ne renouvelle pas sa performance d'il y a quelques années, 2010, 24 sièges. Il arrive à une vingtaine. C'est bon, ça. Très bien. Certes, il est loin des 36 sièges que lui promettaient les sondages à la fin de l'exercice 2016. Il n'en demeure pas moins qu'il gagne 5 sièges, ce qui n'est pas anodin. Il n'en demeure pas moins que dans un pays qui est familier des coalitions acrobatiques, il pèse, etc. Et puis, il y a quelque chose de plus sérieux, à mon sens. C'est que, d'abord, ça ne dit rien de l'essor des populismes dans d'autres pays européens. On y reviendra sans doute. Et puis, il y a deux façons, si vous voulez, de faire progresser votre idéologie. En gagnant une élection, en progressant, et en instillant dans le discours des autres partis traditionnels des thématiques qui vous sont chères. Quand même, n'oublions pas que Rutteux et lui ont gouverné ensemble pendant 2 ans, oui, entre 2010 et 2012, à l'époque où Marc Rutteux était à la tête d'un gouvernement minoritaire de centre-droit, appuyé par les députés du parti de Wilders.
Il a bien promis qu'il n'en voudrait plus.
Dernier point, le durcissement du discours de Rutteux sur la thématique turque n'est sans doute pas étrangère.
Alors on va y revenir, bien sûr.
Et puis encore, il publie en janvier une tribune dans la presse néerlandaise, dans laquelle il dit grosso modo, ceux qui ne respectent pas nos valeurs ont le choix entre partir et se soumettre. Vous savez, like it or leave it, c'est une thématique qu'on a entendue chez d'autres. Donc, c'est une autre façon de faire progresser ce type de thématique-là.
Et Françoise, expliquez-moi comment un pays qui a 5% de chômage, qui a une croissance de 2,3% prévue en 2017, qui est un pays ouvert, les Pays-Bas?
Non, je crois que vous allez dire les États-Unis.
Les États-Unis aussi.
Ou le Royaume-Uni.
Et vous avez raison, bah voilà, exactement. Et preuve que, voilà, il n'y a pas forcément de lien entre l'économie et le vote populiste. Comment on explique ce vote, quand même, cette progression?
Dans le cas des Britanniques et des Américains, où les populistes ont gagné, ce sont les économies les plus ouvertes aux transformations de l'économie et la révolution des technologies de l'information, l'ubérisation, la mondialisation, toutes ces affaires-là, avec un dans le cas des Britanniques et des Américains, un filet de sécurité sociale minimal et des inégalités très fortes. Ça, c'est pas le cas aux Pays-Bas, tout de suite. Eh bien, dans ces cas de figure, les populistes ont gagné. Ils n'ont pas gagné en Italie, ils n'ont pas gagné en Espagne, ils n'ont pas gagné au Portugal. Et donc, effectivement, la montée du populisme n'est pas une fonction directe de la montée du chômage ou de la faiblesse de la croissance. Le populisme a des racines beaucoup plus profondes. Et elles peuvent être identitaires, elles peuvent être sociétales. C'est la crainte de la perte du précariat. Et aux Pays-Bas, bien entendu, la question de l'immigration a évidemment beaucoup pesé. J'appelle aussi l'attention sur le fait qu'aux Pays-Bas, et ce qui a explosé dans les élections, c'est le centre-gauche. Parce que la droite a gagné des voix, et l'extrême droite a gagné quelques voix, beaucoup
et
moins
quelques sièges,
que
sûr,
ouais, beaucoup, beaucoup moins que prévu. L'extrême gauche, verte ou rouge, a pas mal marché. Par contre, le centre gauche, notamment le Parti du Travail, est l'équivalent du PS, ancienne manière, et aux Pays-Bas, et ça a été la bérésina absolue.
Donc la droite siège perdu.
Donc la droitisation. La droitisation du corps électoral. Intéressant, ça.
Juste un mot avant qu'on voit justement les affaires turques, turco-européennes, exactement. UKIP, Trump, le PVV, le FN, AFD, etc. Ça fait partie des composantes importantes du risque politique mondial qui va peser sur 2017. Un mot chacun, François Hesbourg, Vincent Jeu.
Mais dans le cas de Trump, c'est pas un risque, c'est une réalité. Et on y est.
Quand je parle de risque, voilà, à voir ce qui va se passer dans le futur.
Ça fait partie du paysage, et le Brexit a réellement eu lieu. Reste à savoir si dans des sociétés plus protégées, au plan social, moins inégalitaires, comme l'Allemagne ou la France, et les mêmes, il n'est pas évident que nous assisterons aux mêmes évolutions qu'au Royaume-Uni ou qu'aux États-Unis.
De toute façon, je l'exprime.
Le phénomène pèsera lourd. On ne peut pas parler d'une internationale populiste, mais il y a quand même des canaux, il y a des vecteurs. Songez quand même que David Horowitz, l'un des bienfaiteurs de l'aile la plus dure des républicains américains, fait partie de ceux qui ont financé et qui financent toujours le mouvement de Geert Wilders.
Ça ne l'a pas aidé.
Alors, je ne sais pas quel impact a eu sur ce vote, donc, cette vive tension entre la Turquie et les Pays-Bas, 600 000 Turcs hein, qui vivent aux Pays-Bas. On vous en parlait la semaine dernière, donc, à propos notamment de l'Allemagne, hein, dont plusieurs municipalités, pour des raisons de sécurité, d'intendance, etc., avaient refusé donc la tenue de meeting pro-Erdogan dans la configuration en vue de ce référendum qui va renforcer les pouvoirs présidentiels du président turc. Il y avait des ministres qui étaient attendus en Allemagne. Ça a été fermé. Alors, on se souvient, Erdogan avait dénoncé des pratiques nazies, voilà, bon, rien que ça. Et des nazis, des fascistes, ben, il en voit partout, aux Pays-Bas notamment, puisque le week-end dernier, les Néerlandais ont expulsé une ministre turque. Le président Erdogan, c'était lundi soir la télé turque.
Ils ne pourront pas se faire pardonner de leurs erreurs avec de simples excuses. Il y aura bien plus à faire. Le référendum du 16 avril prochain sera la meilleure réponse donnée aux ennemis.
Alors, les ennemis, voilà, la rhétorique Erdogan. Alors, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark ont interdit des meetings. Seule la France, hein, dimanche, acceptait que le ministre turc des Affaires étrangères, vienne à Metz pour un rassemblement pro-Erdogan à destination de la communauté turque. Juste un mot, là, juste sur ce point, la France a eu tort ou raison, François Hesbourg?
Elle a eu raison en ce qui concerne la tenue de la réunion elle-même, dès lors que la réunion était dans un lieu clos, sur invitation. La loi française ne permet à des partis politiques étrangers agissant dans le cadre d'une campagne électorale étrangère et le droit de réunion n'est pas sacré.
Il est
limité et je crois que les conditions étaient remplies. Par contre, rien n'obligeait la France à recevoir ce ministre qui venait là pour faire de la provocation, alors que deux de nos principaux partenaires, l'Allemagne et les Pays-Bas, avaient été traités de nazis par Erdogan. La solidarité la plus élémentaire nous commandait de signifier à ce personnage qu'il n'était pas bienvenu en France, que s'il voulait faire du tourisme, il avait le droit. Encore fallait-il qu'il demandât un visa. Mais on l'a laissé venir sur le territoire français comme s'il était un ministre avec tous les droits qui se rattachent à sa personne. On n'était pas obligé de le faire, on n'aurait pas dû le faire.
Vincent Hugeux.
Preuve que le droit n'est pas toujours juste, le respect des normes, très bien, mais politiquement, la France avait le devoir, par simple solidarité avec ses partenaires européens, de signifier de manière explicite qu'elle récusait avec l'extrême fermeté requise les thématiques et le lexique qui avait été employé.
Oui, minimum. Erdogan, voilà, en passant pour une victime, en insultant tout le monde, en se trouvant des ennemis, hein, voilà, on l'a entendu. Il joue évidemment l'accord nationaliste, l'accord islamiste, la scène interne, la scène intérieure en vue du référendum du 16 avril, Vincent Hugeux, nécessairement.
Ben oui, parce que tout ça est bien plus compliqué qu'il l'espérait. D'abord, il est en train d'illustrer une pathologie assez nouvelle, c'est le syndrome de la tourette politico-diplomatique. Dès qu'on lui parle d'Europe, il sort de manière fasciste, désordonnée et impulsive les mots nazis, fascistes et croisés, n'oubliez pas. La grande croisade de la justice européenne qui consent à l'interdiction des signes extérieurs religieux au sein d'une entreprise si le règlement interne le dispose ainsi. Bien. Lui pensait que le 16 avril, c'était joué d'avance pour avoir effectivement une constitution taillée sur mesure ou sur démesure en ce qui le concerne, lui donnant grosso modo tous les leviers de l'exécutif et même émasculant le Parlement turc. Bien. Ben, c'est pas si simple que ça. Et donc, il sait le rôle que jouera la diaspora turque. La diaspora turque, grosso modo, si on regarde le nombre des inscrits en Europe, c'est entre 2,5 et 2,8 millions d'électeurs virtuels. Alors certes, il y a de l'abstention. Mais on sait que parmi ceux qui votent, et il y en a un nombre très significatif en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, eh bien vous avez grosso modo entre 55 et 60% d'électeurs qui sont favorables à l'AKP, c'est-à-dire son parti, le parti à sa dévotion. Donc, comme il doit, il le dit d'ailleurs, c'était très intéressant dans l'extrait qu'on vient de voir, il le dit d'une manière parfaitement claire et cynique. Il dit « la riposte à nos ennemis », le choix des mots n'est jamais neutre, c'est le vote du référendum, parce qu'il a besoin de ça aussi. Et je crois que ce facteur-là fait qu'en tout cas, tant que les échéances électorales pèseront, il n'y aura pas de désescalade. On reviendra après sur la suite, parce que je pense qu'il y a là un grand exercice de rhétorique et qu'il y a d'autres enjeux qui vont peser.
C'est vrai, François Hesbourg, il y a la rhétorique, bien sûr. Et c'est quoi la prochaine étape? Ça sera de déclencher le feu nucléaire, c'est-à-dire de relâcher les migrants en Europe, finalement, de remettre en cause cet accord sur les migrants ?
Je vais y venir, mais je trouve que les Allemands et les Néerlandais avaient été imprudents en tentant d'interdire de façon systématique les réunions lorsque les Turcs du parti AKP ont voulu les tenir, sachant d'ailleurs que dans le cas de l'Allemagne, c'est pas le gouvernement central qui
décide. Non, c'était les municipalités.
C'est les municipalités ou les Länder. Parce qu'en même temps, elles autorisaient ces municipalités parfois des réunions et des gens proches du parti communiste kurde, du PKK, qui est quand même considéré par l'Union européenne comme une organisation terroriste.
Oui, j'ai raison de le rappeler.
Autrement dit, ces autorités locales ont fait le lit d'Erdogan. Parce que non seulement il donnait il démontrait par l'absurde que les Turcs étaient maltraités en Allemagne, et de l'autre côté que les Allemands n'y regardaient pas de si près lorsqu'il s'agissait de Turcs d'une autre ou des Kurdes d'une autre obédience.
Alors les migrants,
le rapport de force n'est plus aussi favorable aux Turcs qu'il ne l'était il y a un an. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que les Turcs ont construit le mur, on en parle très peu, ont construit le mur le long de la frontière sud de la Turquie avec la Syrie. Les Turcs n'ont évidemment pas envie de voir débarquer de nouveaux réfugiés chez eux. Donc le flux en provenance de Syrie ne passe plus par là.
On va reparler de la Syrie dans 3 minutes.
Voilà, justement, le flux ne passe plus par la Syrie. Quant à la route des Balkans, elle a été effectivement coupée.
Bah, la Hongrie qui continue de se blinder, il y a une deuxième clôture anti-migrant qui va être assez fermée.
Mais pas simplement la Hongrie.
Non, mais je parle
l'ensemble.
L'exemple.
Oui, mais bon, les Hongrois, on met ça sur le compte de leur...
J'ai rien dit.
Oui, mais je veux dire, on met assez volontiers ça sur le compte de leur xénophobie, d'ailleurs, parfois à raison. Mais l'Europe en tant que telle, l'Europe de Schengen, elle a bouclé, là. Et autrement dit, je pense que l'Allemagne et l'Europe en général est beaucoup mieux positionnée aujourd'hui, et le cas échéant pourra démontrer à Erdogan que son sabre, en la matière, il est fait de bois.
Bon.
Et je crois qu'on s'exagère nous-mêmes maintenant notre dépendance par rapport au bon vouloir du grand Turc.
Les menaces sur l'Europe, on en parlait, elles s'incarnent aussi dans les velléités protectionnistes des États-Unis. Il y avait ce vendredi 2 rendez-vous importants, Angela Merkel face à Washington, face à Donald Trump, exactement, pour continuer de militer, enfin pour elle, en faveur du libre-échange. Elle était accompagnée d'ailleurs des patrons de BMW, de Siemens. Et puis il y avait le G20 Finance de Baden-Baden en Allemagne, en présence donc du secrétaire au Trésor américain. On parlait du risque politique lié à la pression du vote populiste. Les menaces protectionnistes, elles constituent aussi un risque politique important. Allez, un mot chacun, et puis on évoquera évidemment ce sinistre anniversaire en Syrie. Françoise Bourg.
Oui, Madame Merkel venait aussi préparer un petit peu la grande séquence des réunions internationales en mai, juin, juillet. Fin mai, réunion de l'OTAN à Bruxelles. Fin mai, réunion du G7 en Italie. Fin juin, Conseil européen à Bruxelles qui devra traiter notamment du Brexit. Et début juillet, réunion du G20 à Hambourg. Autrement dit, on va entrer un peu comme ça a été le cas en 2012 après l'élection de François Hollande, et ça a évidemment un impact pour celui ou celle qui serait élu en France cette année. Il y aura une séquence internationale infernale dans les semaines qui suivront l'élection.
Vincent Hugeux.
Quel tango peut donc danser un couple tel que celui-là ? Peut-on imaginer partenaires aussi dissemblables dans leur approche du monde, mais aussi dans leur tempérament ? N'oublions pas quand même que Trump a dit de la politique migratoire allemande qu'elle était, je cite, « catastrophique ». Ce à quoi Angela Merkel avait sobrement répondu qu'il y avait des valeurs de dignité humaine qui l'emportaient sur le reste. Mais là-dessus, comme sur le reste, vous parlez de protectionnisme, Fabrice, mais Trump est en train de s'apercevoir que le mythe du verbe performatif a ses limites. C'est-à-dire, il ne suffit pas de vouloir et de tweeter pour infléchir la réalité. Il y a des codes, il y a des normes, et il s'aperçoit par exemple, et je termine là-dessus, que s'agissant de son fameux décret censé anéantir l'immigration hostile venue de pays musulmans, eh bien, il est de nouveau retoqué
par un juge fédéral de Hawaï. Bon, on va continuer 7 jours dans le monde. Retour sur l'actu internationale de la semaine sur BFM Business, à la télé, à la radio, avec François Hesbourg, avec Vincent Hugeux. À tout de suite avec... un anniversaire épouvantable. Oui, mais bon, on dit ça chaque année quelque part. Ça s'arrête quand ? La guerre en Syrie. 6 ans. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, l'actu internationale, vous le savez, eh bien, c'est tous les week-ends sur BFM Business, à la télé, à la radio, 7 jours dans le monde, avec François Hesbourg, qui vous propose comment perdre la guerre contre le terrorisme, Vincent Hugeux avec les reines d'Afrique, le roman vrai des premières dames, les first ladies africaines. Oui, l'Afrique, évidemment, on en parlera dans un instant, mais auparavant, on est au Moyen-Orient, au proche Moyen-Orient, avec plusieurs terribles attentats, donc en milieu de semaine, à Damas, plutôt épargné jusqu'à présent, par le chaos syrien, la capitale syrienne, une centaine de victimes. Alors quand je vous dis une centaine de victimes, c'est énorme bien sûr, mais malheureusement une goutte d'eau parmi les presque 500 000 morts, oui, depuis 6 ans pile, mercredi 15 mars, qui marquait l'anniversaire du coup d'envoi du soulèvement syrien. C'était en 2011 à Deraa avec ses manifestations contre Bachar al-Assad. 6 ans après, l'ONU voit dans le pays une véritable chambre de torture. Le haut commissaire en charge des droits de l'homme.
Aujourd'hui, le pays entier est devenu une chambre de torture, un endroit d'horreur et d'injustice absolue. Alors que le conflit entre dans sa 7e année, c'est le pire désastre causé par l'homme que le monde n'ait jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, bombardements, tirs d'artillerie, usage de la torture, selon l'ONU, 60 000 personnes en effet sont mortes en 6 ans sous la torture ou à cause de terribles conditions de détention dans les prisons du régime. Vincent Hugeux, on peut ajouter aussi récemment le bombardement par l'aviation de Bachar al-Assad de réservoirs, de bassins desservant la capitale en eau potable, crime de guerre selon l'ONU.
Pas l'ombre d'un doute, mais d'une certaine manière, symboliquement, la boucle est bouclée. Voilà 7 ans, ça démarre comment ? Ce soulèvement d'abord pacifique, c'est effectivement des écoliers qui, sur le mur de leur établissement, inscrivent le graffiti suivant « Docteur, ton tour arrive ». Docteur, référence à la qualité supposée d'ophtalmologue de Bachar al-Assad, ton tour arrive, allusion évidemment aux printemps arabes. Eh bien, c'est le fait que ces gamins aient été soumis à des tortures qui provoquent le soulèvement, puis ensuite la contagion. Et aujourd'hui, on arrive à ce phénomène du constat de la grande salle de torture. Mais au passage, n'oublions pas que dès 2015, une consoeur, Garance Lequen, avait sorti un ouvrage sur ce qu'on appelait l'opération César. Un photographe de renseignement militaire syrien avait réussi, avec beaucoup d'audace d'ailleurs et de
courage,
culot,
ouais,
à sortir quelques clés USB avec des dizaines de milliers de clichés, car on sait très bien à quel point les tyrannies sont dingues d'archives. Il y a là une pathologie commune à tous les despotismes. Et donc, on voulait, en quelque sorte, laisser une trace. Eh bien, cette trace, ce sont des cadavres suppliciés. Alors, au début, avec une fiche autour du cou, ensuite juste un numéro au marqueur sur le torse des intéressés. Donc ça ne peut surprendre qui ? Ça ne peut surprendre que les naïfs et les pleutres, le fait de découvrir ce systématisme, cette torture d'État.
Ouais, François Hesbourg, 6 ans de guerre chaque année, je le disais à la même période, on s'interroge, jusqu'où cette horreur peut-elle aller ?
Ça va hélas continuer, et le problème c'est qu'on avait d'un côté des pays qui prétendaient vouloir renverser Bachar, c'était le cas des Occidentaux, le cas de la Turquie aussi à ce moment-là, mais qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour provoquer la chute de Bachar, et notamment lorsque l'occasion s'est présentée en 2013, lorsque la Syrie avait franchi la fameuse ligne rouge dessinée par Obama en matière d'utilisation des armes chimiques contre la population civile de Damas, parce qu'il fallait le faire. Et il a reculé. À partir de ce moment-là, les Occidentaux ont été hors jeu. Et les Occidentaux ont montré qu'ils n'avaient pas lu Clausewitz, si je puis dire, c'est-à-dire que la guerre est supposée être la poursuite de la politique par d'autres moyens. Poutine et les Iraniens, et Bachar, bien entendu, eux, agissent conformément aux préceptes, à savoir que si on veut obtenir quelque chose dans une situation de guerre, il faut faire la guerre.
Mais comment François Hesbourg, et François Hugeux également, la Syrie, elle est devenue ce point de fixation, ce symbole finalement d'un nouvel ordre international avec de nouvelles puissances, en tout cas qui ont émergé ou qui se sont imposées, Iran, Turquie, Russie, puis d'autres qui se sont effacées, les États-Unis, l'Europe.
Ben le manque de sérieux, ça tue. L'Europe, les États-Unis, la Turquie ont fait partie des pas sérieux, c'est-à-dire toujours prêts à faire des réunions à la mutualité pour dénoncer les horreurs, le massacre et ainsi de suite, mais jamais prêts à faire ce qu'il aurait fallu si on était sérieux. Les Russes, eux, avaient des principes relativement simples. des buts de guerre, on appelle ça. Le premier, c'était de sauver Bachar. Et le second, c'était de montrer que la Russie n'était plus simplement une puissance régionale, mais était redevenue une puissance mondiale. Les Russes ont mis 5000 soldats sur le terrain, pas plus. Pas plus que de Français au Mali en 2013. Hein. C'est une petite opération, l'opération russe. Mais ils l'ont fait au moment où il fallait, avec les moyens militaires.
Du beau matériel.
Et du beau matériel. Ouais. Et,
ils ont testé, d'ailleurs,
et les Iraniens ont fourni une bonne partie de l'infanterie, et la Hezbollah également. Et grâce à cela, Bachar est resté au pouvoir et est en train de vaincre dans une grande partie de la Syrie utile. Il est en train de vaincre, mais il ne peut pas gouverner. Donc, malheureusement, le bain de sang va continuer. Et nous pourrons toujours faire des réunions à la mutualité pour déplorer la situation.
Vincent.
Je persiste à dater le péché originel de l'été 2013, où il y a donc clairement cette disjonction entre le verbe et les actes, où vous avez Barack Obama qui saisit tout soudain d'une sorte de tétanie politique, refuse de frapper alors que les cibles ont été identifiées. Et c'est à partir de ce moment-là que le rapport de force bascule, c'est à partir de ce moment-là que Moscou comprend qu'il y a un espace dans lequel s'engouffrer et qu'il y a cette sorte de désertion assez misérable, je dois dire, et que les Syriens, en tout cas les rescapés, ne pardonneront jamais à l'Occident pour d'assez bonnes raisons.
Mais Fabrice, François, vous avez raison, c'est une forme de basculement du monde. À partir de cet août 2013, ce moment fatidique où nos propres avions, les avions français, étaient à 4 heures du top départ.
Ils étaient prêts.
Ils étaient prêts. Nos pilotes étaient en stand-by, et ainsi de suite. Et ça a été pas simplement la Russie qui s'est engouffrée en Syrie, ça a été aussi
ceux qui se sont retirés.
Les Chinois qui ont commencé à se pousser en mer de Chine Sud. Ça a été la Russie qui a fait le coup de la Crimée, et ainsi de suite. À partir de 2014, et le système international change de nature. On est entré dans une ère qu'on ne nomme pas encore. C'est la fin de l'après-guerre froide. Ça date très précisément du 21 août 2013.
Les prochaines échéances en Syrie, Raqqa toujours évidemment dans la ligne de mire, donc des différents groupes qui combattent en Syrie. Il y aura aussi l'échéance de la reconstruction aussi. Qui va payer une somme qu'on estime à 300 milliards de dollars? Les donateurs, ils n'ont pas forcément envie de se précipiter, de servir Bachar al-Assad, François Hesbourg.
Pour que notre honte soit complète, c'est qu'après avoir assisté à notre déconfiture en Syrie et au supplice du peuple syrien, nous soyons ensuite invités à passer à la caisse pour réparer les dégâts causés par les Russes. Et très franchement, c'est absolument horrible.
L'Irak aussi, de l'autre côté, quelque part, la bataille de Mossoul, l'Ouest, qui a déjà fait 100 000 déplacés depuis un mois sur 750 000 habitants. L'offensive, elle se poursuit. La gare a été reprise donc aux djihadistes. Vincent Hugues, vous y étiez, on va le rappeler, pour l'Express, c'était mi-janvier. Très dur combat sur fond toujours d'attentats suicides commis par Daesh qui arrive à s'infiltrer comme ça derrière les lignes gouvernementales. Il y a des vidéos qui circulent, filmées par Daesh avec des drones justement. On voit la progression d'un camion pelleteuse là qui arrive, qui force une ligne et puis qui se fait exploser. Voilà, gros outil de propagande.
J'évoquais l'autre jour les confidences de cet officier d'une unité de renseignement irakienne sur la difficulté de l'exercice, sa durée et son coût. Humain et symbolique, mais soyons clairs, Daesh ne tiendra pas Mossoul Ouest. C'est maintenant une question de semaines, de mois dans le pire des cas, d'autant qu'aujourd'hui, ils sont totalement pris au piège. Les 2500, c'est l'estimation des services d'intelligence américains, combattants qui sont aujourd'hui entre donc Mossoul Ouest et Tal Afar, une dernière ville vers l'ouest qui est encore tenue par leurs forces, ils n'ont plus aucune voie de retrait. Tous les axes se sont verrouillés et contrôlés, donc ils vont lutter et mourir jusqu'au bout. Ils vont infliger encore des pertes significatives à l'ennemi et aux civils, évidemment. Donc, de toute manière, les cerveaux de Daesh, pourvu qu'il en restât encore, savent très bien qu'ils ne tiendront plus une enclave territoriale significative.
Mais François Hesbourg, comment perdre la guerre contre le terrorisme? La question aussi, c'est que vont devenir les combattants de Daesh? Que va devenir le pseudo-califat, donc après la chute à venir de Raqqa et Mossoul? Puis que vont devenir les Français qui combattent là-bas aussi?
Le projet territorial de califat de Daesh est en train d'échouer. Un peu moins de 3 ans après la prise de Mossoul par Daesh, hein, en juin 2014, effectivement, la rupture stratégique de Daesh par rapport aux autres mouvements djihadistes, et notamment par rapport à Al-Qaïda, Daesh va finir, sous sa forme actuelle, sur un demi-échec. Et le problème, bien sûr, c'est que le terrorisme n'a pas commencé avec Daesh, et il ne s'achèvera pas avec Daesh. Le 11 septembre 2001, l'acte de terrorisme quand même le plus violent, le plus meurtrier de l'histoire, n'a pas eu lieu du temps de Daesh. Autrement dit, Al-Qaïda 2.0, je ne sais pas comment il faut l'appeler, la suite, elle sera toujours là, d'autant plus que... rien n'est réglé politiquement dans le nord de l'Irak avec la chute de Mossoul. Rien ne sera réglé avec la chute de Raqqa. Raqqa pourrait être prise ou aurait pu être prise depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, si l'on avait tout simplement laissé faire le PKK. La version locale des communistes kurdes, et qui aurait fait du nettoyage ethnique, qui aurait tué les Arabes, qui les aurait virés.
Bien sûr.
Le petit problème, c'est qu'en Syrie, les 2/3 de la population sont sunnites et 90% sont arabes.
Ouais.
Et donc, l'efferment du terrorisme reste malheureusement intact. Et de la même façon que pendant un certain nombre d'années, voire même de dizaines d'années, on a eu des terroristes. Moi, je ne les appelle pas des combattants. Hein, les types de chez nous qui partent et qui reviennent, je les appelle les revenants, le cas échéant. On a eu les revenants d'Afghan, on a eu les revenants d'Irak, on aura les revenants de Syrie.
Non,
ce ne sont pas des Français qui combattent.
Bien sûr, hein, et vous le dites, vous l'expliquez très bien, dans comment perdre la guerre contre le terrorisme au départ. Vincent, encore un mot.
Oui, rapidement, fragmentation du péril, ça, c'est un cas d'école qui est connu maintenant, avec une dispersion. C'est quelque chose qu'on a vu à l'œuvre et que l'on voit à l'œuvre, même si ça sort un peu des écrans radars de l'actualité, dans le Sahel aujourd'hui. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez un cas d'école formidable au nord de la Syrie, c'est une ville qui s'appelle Minbej, où au fond, les Américains viennent de déployer, ce qui est assez nouveau, des blindés, des strikers. Pourquoi ? Pas pour reconquérir la ville, pour faire en sorte que ce ne soit pas une alliance turco-syrienne hostile qui la prenne et que les Russes n'y mettent pas la main. Donc vous avez en fait des décisions stratégiques de reconquête d'une ville qui sont différées à raison de ce que je vous racontais l'autre jour à propos de Mossoul. On dit aux Kurdes, vous ne descendez pas au sud. Ah, les chiites, les miliciens
qui ont le passage plus lourd,
vous allez vous occuper de l'ouest, etc. Donc vous avez ces calculs de l'après, un après que personne n'est capable d'ailleurs de dessiner, qui paralyse et qui tétanise parfois les mouvements militaires.
Là, après, vous avez évoqué le Sahel. Question, oui. Est-ce que Daesh peut se replier, va se replier sur l'Afrique de l'Ouest, notamment Nigeria, Niger, Cameroun, Mauritanie, Mali?
Alors, vous avez des terreaux qui sont propices. Et d'ailleurs, on a vu également, dans la zone que vous venez d'évoquer, la même émulation funeste, à un moment donné, où Daesh gagne des positions, en tout cas des sympathies, parce que se montre plus radical, plus définitif, plus absolu que Al-Qaïda. Et c'est d'ailleurs ce qui a expliqué aussi les rivalités entre ACMI, donc Al-Qaïda Maghreb Islamique, etc., et d'autres factions. Même phénomène avec Boko Haram, dont on sait maintenant, donc là, la secte djihadiste nigériane, qu'elle est elle-même traversée par des lignes de faille assez profondes, où il y a cette terrible émulation, cette concurrence de fuite en avant dans l'atrocité et dans la terreur.
Ouais, Vincent Jeu, c'est son blog qui l'anime aussi, l'Afrique en face, passionnant. Oui, concurrence évidemment avec ACMI,
et en amont, vous avez l'argent de mécènes saoudiens, qataris et autres golfiotes qui se déversent en Afrique occidentale, comme en Asie du Sud-Est, comme dans les Balkans, pour évincer l'islam quiétiste de ces régions et le remplacer par un islam beaucoup plus radical, les wahhabites, qui ne sont pas forcément des terroristes, mais il est rare qu'un terroriste soit quiétiste.
Un terroriste modéré.
Voilà, ça n'existe pas.
Ça s'appelle un oxymore.
Donc nous avons une situation où une partie de la jeunesse africaine est en train d'être embrigadée, scolarisée, entre guillemets, par les wahhabites, par les salafs, et certains d'entre eux pousseront la radicalité jusqu'à son aboutissement extrême, qui est le terrorisme djihadiste.
Allez, l'Afrique, on y revient dans un instant, donc dans 7 jours dans le monde, la Libye, et puis puis on prendra des nouvelles de Dominique Strauss-Kahn, DSK. Restez avec nous sur BFM Business, à la télé, à la radio. 7 jours dans le monde qui reprend avec Vincent Hugeux et François Hesbourg.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
On a encore quelques minutes avec François Hesbourg, avec Vincent Hugeux. Alors, l'Afrique, je vous le disais, eh bien, on y reste. Hein. La Libye, je voulais qu'on en reparle cette semaine. Pays divisé hein, depuis la chute de Kadhafi, il y a 6 ans, là aussi, puisqu'on évoquait donc cette révolution syrienne qui avait démarré de cette guerre en Syrie il y a 6 ans. Alors, deux autorités rivales hein, en Libye, à Tripoli, hein, un gouvernement d'union nationale, reconnu à l'étranger, et puis à l'est, à Benghazi, donc un gouvernement lié au maréchal Haftar, et au milieu, eh bien, prospère, ou essaie de prospérer des djihadistes, des groupes djihadistes dont certains ont été délogés cette semaine de ce qu'on appelle le croissant pétrolier par cet homme fort de l'Est libyen. C'est qui ce maréchal Haftar que Vincent Hugeux, vous êtes un spécialiste de l'Afrique, il a 73 ans, c'est un ancien haut gradé du régime Kadhafi.
Tout à fait, lorsque le défunt guide de la Jamaïria libyenne arabe populaire et socialiste dépêche un corps expéditionnaire au Tchad dans les années 80, c'est un certain Haftar qui le commande. Débâcle absolue, c'est une déroute. À un moment donné, Haftar négocie son exfiltration. Il est désavoué, voire blâmé publiquement par Kadhafi soi-même. Il se retrouve aux États-Unis et là où il devient un supplétif de la CIA. Le paradoxe de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, il tente à se rapprocher
de la Russie.
Moscou.
Ouais,
absolument.
Exactement.
Alors, si on devait esquisser aujourd'hui...
Pour faire quoi, en fait, avec Moscou?
Ah mais tout simplement parce que il pense que l'alliance qu'il peut sceller avec Moscou sera plus profitable que un pacte avec un pays qui de toute façon s'est désengagé, non pas seulement du Moyen-Orient dont on parlait tout à l'heure, mais aussi de l'enjeu libyen. Alors si on voulait esquisser une typologie des factions rivales en Libye, une émission entière n'y suffirait pas. Donc allons simplement à l'essentiel. De fait, Haftar a repris deux des places fortes du croissant fertile qu'il avait perdu, Ras Lanouf et Al-Sedra. N'empêche que on a tendance, me semble-t-il, en Occident, à surestimer sa performance et son pouvoir. Parce que Haftar, pour en quelque sorte prétendre à un pouvoir au-delà de son fief, il a besoin de plusieurs facteurs, notamment d'un appui aérien qui, par exemple, peut être fourni par l'Égypte ou par, pourquoi pas, les Émiratis. Et il a besoin aussi d'alliances tribales, encore une fois, pour aller au-delà de son bastion. Et il a prouvé, certes, qu'il était capable de le reprendre, mais donc qu'il était capable de perdre aussi. Et alors, le vrai souci aujourd'hui, c'est qu'à Tripoli même, où j'étais il y a quelques mois, vous avez des quartiers relativement résidentiels, hein, Gargarèche par exemple, vous avez maintenant des centres commerciaux, etc., qui ont été le théâtre, voilà quelques jours,
de combats
entre le très faible gouvernement dit d'Union nationale de Fayez al-Sarraj. Enfin quand même, quand je vois Fayez al-Sarraj à l'été dernier, il me reçoit dans la base maritime, où il a été infiltré nuitamment, et où il n'a pas pu jusqu'alors, d'où il n'a pas pu sortir jusqu'alors. Donc c'est dire qu'il ne règne même pas sur Tripoli. Ouais. Voilà un peu quel est l'état de la Libye d'aujourd'hui.
Voilà, un gouvernement d'union nationale qui a du mal à s'imposer. François Hesbourg.
Oui, et comme vous le disiez à juste titre, une émission entière ne suffirait pas pour commencer à regarder les complexités de la situation. Mais par exemple, on parlait des Émiratis. Les Émirats Arabes Unis, c'est quelques millions de personnes, mais dont seulement à peu près 400 000
nationaux
des EAU. Ils ont ouvert une base aérienne en Érythrée pour bombarder au Yémen, et ils sont en train de construire une base aérienne au nord de Benghazi pour venir au secours du bon général Haftar. Et avec, par ailleurs, le concours des Égyptiens et des Russes, les Émiratis étant, par ailleurs, nos grands amis à nous, alors que nous soutenons le gouvernement d'Union nationale de Tripoli.
On a nous-mêmes, enfin, la France a une base aux Émirats, à Abu Dhabi.
Ouais. Et par ailleurs, nous avons une base... Enfin, et
comme
disait le général de Gaulle, il vaut mieux pas s'envoler avec des idées trop simples lorsqu'on va au Moyen-Orient. Donc une situation qui, comme celle du Yémen, comme celle de l'Irak, comme celle de la Syrie, signale la fin de l'ordre territorial issu de la fin de la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient.
On y revient.
Ça va prendre quelques dizaines d'années. Et ça veut dire beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup, beaucoup de réfugiés, Et les Européens devront s'y préparer.
On va rester en Afrique pour terminer, Vincent Hugeux, grâce à vous, donc des nouvelles de DSK. Escapades africaines, voilà, enquête dans l'Express de cette semaine. J'ai adoré, ça commence par une anecdote, hein, une conversation entre Macky Sall et l'ancien patron du FMI, près d'une résidence de Dakar, où Nafissatou Diallo envisage d'investir. Oui, elle a touché un peu d'argent il y a quelques années pour une histoire dont on a un peu parlé en France. Hein. Voilà, c'est très, très amusant ce que vous racontez.
Oui, parce que ce qui m'a intrigué, c'est que me venaient de loin en loin des indices d'une sorte de tentative de retour en force de Dominique Strauss-Kahn sur le continent africain, un peu, si vous voulez, comme un joueur de casino qui essaye de se refaire et qui choisit le tapis vert qui lui conviendra le mieux.
Un tapis vert au Sénégal, au Congo-Brazzaville, au Togo également, voilà, où il a posé ses valises.
C'est ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui encore, il s'agit de contrats en bonne et due forme. En tout cas, hier au Soudan du Sud, où il se penche, pays jeune mais ô combien chétif, il se penche sur le berceau d'une National Credit Bank, voilà quelques années. Et ensuite, il est reçu très officiellement par Macky Sall au Sénégal, il a un contrat de consultant, il est reçu par Fornia Singbé à Lomé au Togo, il a un contrat de consultant.
Et il dépend à chaque fois, ce que vous expliquez, directement du chef de l'État, du président, qui signe le contrat,
c'est le fait du prince.
Et qui aligne quand même des émoluments de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Quelques indications puisées aux meilleures sources, mais ce qui est frappant pour moi, c'est que d'une certaine manière, Dominique Strauss-Kahn incarne une forme de névrose postcoloniale. Voilà quand même 60 ans que, au moins formellement, les pays d'Afrique sont supposés être indépendants de leurs anciens tuteurs coloniaux. Et des chefs d'État, par crédulité, peut-être, en sont encore à recruter les talents au demeurant contestables de gens qui ont échoué là où ils sont passés.
Il est efficace au moins quand il va travailler en Afrique ou pas?
Alors, pour être tout à fait équanime, quand j'interroge le ministre tunisien du développement, puisque il se trouve que Dominique Strauss-Kahn était partie prenante dans un consortium qui a animé une conférence en novembre dernier qui s'appelait Tunisia 2020, donc un plan quinquennal de développement, etc. Le ministre me dit, écoutez, s'agissant des objectifs que nous avions assignés à ce consortium, à savoir modifier, améliorer l'image économique de la Tunisie et convaincre des bailleurs de fonds d'investir ici, nous sommes satisfaits. Donc je ne lui retire pas toute qualité. Mais enfin, quand je vois que au Congo-Brazzaville, on vient le convoquer pour parler avec un de ses copains, patron de la banque Argile, de la réforme de la dette privée, c'est-à-dire si DSK était un gestionnaire brillant, ça se saurait. Quand je vois que le Sénégal lui confie ce genre de mission, que le Togo fait de même, il y a là quelque chose d'assez vertigineux par rapport à un manque de maturité politique plus d'un demi-siècle après l'ère coloniale.
François Hesbourg, allez, un mot court pour terminer.
Quelle peut être la valeur ajoutée de DSK dans ce genre de situation, sachant que la plupart des chefs d'État des pays concernés ne sont pas des naïfs, hein, et c'est vrai aussi des contrats qu'il a eu dans certains pays des Balkans. Ça, je pense que sa valeur ajoutée, dans la mesure où il y en a une, et moi je ne sais pas l'évaluer, mais je pense que sa valeur ajoutée, elle est non pas dans un hypothétique et improbable retour politique. Ça, je pense que ses clients n'y croient pas un instant. Mais c'est la capacité de naviguer à travers le système de la finance politique. C'est quoi la finance politique ? C'est les accords avec les FMI, les accords avec la Banque mondiale. La plupart des pays dont nous venons de parler ont besoin d'un navigateur. Or, le système DSK le connaît. Il le connaît vraiment. Et je pense que c'est ça qui explique à la fois le montant des émoluments et le fait qu'il soit en prise directe avec les chefs d'État. Cela étant dit, effectivement, syndrome postcolonial, bien sûr, hein, vous avez raison.
Escapades africaines, voilà cette enquête dans l'Express de cette semaine, avec une petite anecdote aussi que je cite, hein, allez voir cette enquête de Vincent Hugeux, commentaire d'un haut fonctionnaire du Togo qui explique qu'il y a un point commun entre DSK et le président Niassine Bey, qui lui aussi collectionne les femmes. Dixit, ce haut fonctionnaire togolais, c'est dans l'Express. Vincent Hugeux, merci Vincent Hugeux, donc le blog L'Afrique en face, grand reporter à l'Express, auteur de Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. Et puis François Hesbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de Comment perdre la guerre contre le terrorisme. Merci à tous les deux. 7 jours dans le monde revient le week-end prochain. Bon week-end.
BFM Business, 7 jours dans le monde.